Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jérôme Longuet pour ce journal de la Radio des Nations Unies. 15 minutes d'informations et de magazines largement consacrés aujourd'hui à la célébration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Nous ferons aussi le point sur la situation au Moyen-Orient examinée ce matin par le Conseil de sécurité. Il sera aussi question avec l'UNICEF du sort peu enviable des enfants au Yémen. Et puis nous terminerons en musique avec notre invitée, la chanteuse malienne Ina Modja. Le Conseil de sécurité a procédé ce matin à l'examen mensuel de la situation au Moyen-Orient. Les 15 ont entendu Jeffrey Feltman, le secrétaire général adjoint aux affaires politiques, qui a condamné l'attaque sanglante de dimanche contre le marché de Douma en Syrie. Jeffrey Feltman qui a aussi mis l'accent sur l'escalade des risques de tensions entre Israël et la Palestine ces dernières semaines. Et ce, un an après la fin du conflit qui a ravagé Gaza et dont les conséquences se font toujours sentir. Il a aussi vivement réagi aux violences commises par les extrémistes et notamment celles de colons israéliens contre une famille palestinienne.
Les incidents violents récurrents et la radicalisation en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est et à Gaza, menacent de déstabiliser davantage un environnement déjà tendu. Les incidents partagent un point commun. Ils sont le produit inévitable de l'échec à faire les choix difficiles et nécessaires pour résoudre le conflit. Ils sont la ramification de l'incapacité à accorder la priorité d'un avenir partagé fondé sur la confiance plutôt que la peur. Nous ne pouvons plus longtemps accepter cette réalité. Il est temps d'inverser la tendance périlleuse à laquelle nous sommes maintenant confrontés et de restaurer, tant pour les Israéliens que les Palestiniens, l'espoir menacé d'être étouffé par les promoteurs de la haine.
Et puis en cette journée mondiale de l'aide humanitaire, Pierre Krahenbühl, le patron de l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, a annoncé que les fonds étaient réunis pour la rentrée scolaire des enfants palestiniens. 500 000 écoliers risquaient de voir leur retour en classe se retarder dans les 685 écoles gérées par l'UNRWA. Alors que le déficit s'élevait à 100 millions de dollars, grâce à des dons récents, 80% de ce budget est dorénavant couvert pour une brève période, comme l'indique Marc Lassouaoui, officier de liaison de l'UNRWA à New York.
On a réussi à obtenir 80% du montant dont nous avions besoin. Plusieurs pays sont venus à la rescousse du budget général de l'UNRWA, notamment l'Arabie Saoudite, le Koweït et les Émirats Arabes Unis. À eux trois, ces pays ont financé presque la moitié du déficit de l'UNRWA. Nous parlons de presque 50 millions. Le reste est financé par les États-Unis, Suisse, le Royaume-Uni, la Norvège, la Suède, la République slovaque. La rentrée scolaire va se passer comme elle avait été prévue à l'origine, le 24 août pour les territoires palestiniens et les semaines qui viennent pour les autres pays et territoires où nous travaillons, dont la Syrie, le Liban et la Jordanie. Cette somme nous permet de continuer nos services d'éducation basique jusqu'en fin d'année 2015.
On célèbre donc ce 19 août la Journée mondiale de l'aide humanitaire en hommage aux victimes de l'attentat suicide au camion piégé perpétré le 19 août 2003 à Bagdad contre le siège des Nations Unies. Attentat qui s'était soldé par la mort de 22 membres du personnel de l'ONU. Pour illustrer l'engagement humanitaire et humain des Nations Unies et de leurs partenaires, notre radio diffuse cette semaine des témoignages d'acteurs, de promoteurs, de témoins de l'aide humanitaire. Toby Lanzer est coordonnateur humanitaire justement régional pour le Sahel. Il revient sur les principes et valeurs de l'action humanitaire au Mali, où 3,1 millions de Maliens sont touchés par l'insécurité alimentaire.
L'action humanitaire est indépendante, est impartiale, est basée sur ses principes, mais aussi le principe de l'humanité. Franchement, avec les moyens qu'ils ont, les différentes ONG, les agences du système des Nations Unies, ils ont vraiment besoin d'augmenter leur présence et leur mouvement dans des régions différentes. Je veux encore une fois souligner les principes humanitaires qui sont la plateforme sur laquelle nous on travaille. C'est les principes d'indépendance, neutralité, impartialité et humanité surtout. J'appelle à tous les acteurs ici au Mali qui ont une influence sur les événements ici de respecter l'humanitaire. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font en sorte qu'il y ait un futur meilleur pour le Mali. Qu'un enfant puisse aller à une clinique. Qu'un enfant ne meure pas de la rougeole. Qu'un enfant ne meure pas de la malnutrition. Ça, c'est la réponse humanitaire.
En marge des festivités marquant la journée humanitaire mondiale au Palais des Nations Unies à Genève, le prix Sergio Vieira di Mello 2015 a été décerné cette année à la plateforme interconfessionnelle pour la paix en République centrafricaine. Les trois leaders religieux ont été honorés pour les efforts de réconciliation en Centrafrique et le dialogue interreligieux qu'ils ont promu à titre de mesures préventives contre les violences sectaires pour construire la paix en RCA. Le groupe a été créé en 2013 en pleine guerre. Il se compose notamment de Monseigneur Dieudonné Nza Palenga, du président de l'Alliance des évangéliques, le pasteur Nicolas Guéréco Yamé Gbangou, et le président du Conseil islamique en RCA, l'imam Oumar Kobiné Layama. On écoute ce dernier.
Mon message à mes compatriotes, c'est de les appeler à prendre en considération notre devise, surtout le mot « unité », qui s'est ébranlé déjà pendant cette crise. Il faudrait que nous la remettons vraiment au cercle de nos débats, au cercle de nos dialogues, pour pouvoir vraiment consolider l'unité nationale, afin qu'ensemble, nous puissions tourner la page sombre de notre histoire. Cette page sombre qui a fait que nous étions comme des renégats, on était dans la jungle où chacun faisait sa loi. Il faudrait que les uns et les autres, chacun de nous, pense à ne plus revivre ça. Et puis nous, que aussi ces élections, ces échéances électorales qui arrivent, qu'on fasse comprendre à nos politiques que les Centrafricains ne sont pas les mêmes d'hier. Nous avons compris que la politique, c'est seulement des intérêts, mais ce n'est pas la nation.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité, plus d'un millier d'enfants ont été victimes du conflit au Yémen, souligne l'UNICEF. 8 enfants en moyenne sont tués ou blessés chaque jour, une conséquence directe du conflit qui frappe le pays selon le rapport Yémen, l'enfance sous la menace, publié par l'agence onusienne. Dans un pays où les enfants représentent 80% de la population, 1,3 million de personnes ont dû fuir leur foyer depuis le début du regain de violence il y a 4 mois. Les précisions de Christophe Boulirac, il est porte-parole de l'UNICEF, des propos recueillis par Alpha Diallo.
Il y a 8 enfants en moyenne qui sont tués ou blessés chaque jour au Yémen. Cela fait déjà des semaines et des mois que nous donnons des détails sur à quel point les enfants souffrent de ce conflit, de cette recrudescence de violence. Eh bien, ça continue, ça s'aggrave même, aussi bien dans le domaine de la santé, de la malnutrition, de l'éducation, du manque d'eau potable. Et nous continuons, dans un contexte difficile, tout notre travail de distribution d'eau potable, de lutte contre la malnutrition et les maladies. Il faut savoir que 80% de la population du pays, au Yémen, ce sont des enfants. Hein.
Et 8 enfants moyens tués ou blessés chaque jour au Yémen, est-ce la conséquence directe des conflits qui frappent le pays? Ou y a-t-il d'autres explications pour expliquer que les enfants font face à d'autres menaces dans ce pays?
Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'avant même le début de ce conflit, avant même fin mars, la recrudescence des violences, les enfants étaient vraiment dans une situation de vulnérabilité chronique. Il y avait de la malnutrition, mais il y avait eu des avancées très très difficilement atteintes, par exemple une réduction de la malnutrition aiguë sévère de 280 000 enfants à 160 000. Tout ça, c'était avant. Bon, donc c'était, l'UNICEF est depuis longtemps au Yémen et donc les enfants sont en situation de vulnérabilité depuis longtemps au Yémen. Mais évidemment, ces combats et les restrictions d'importation commerciale qui font qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de fuel, il n'y a pratiquement plus d'électricité, il n'y a plus d'accès aux soins, il y a 3600 écoles qui ont fermé leurs portes. Évidemment, ce conflit aggrave terriblement cette situation de vulnérabilité qui existait auparavant. Un grand écart entre les villes et les campagnes, notamment pour les enfants, entre les garçons et les filles. Et malheureusement, ces violences continuent et il n'y a toujours pas d'importation à un niveau correct, puisque le pays importe 90% de ses denrées, et il y a toujours de la violence, qu'il s'agisse des bombardements, qu'il s'agisse des combats de rue. Nous avons beaucoup de témoignages d'enfants aujourd'hui dans le rapport que nous diffusons. Voilà, des enfants qui sortent de chez eux, il y a des bombardements, tout d'un coup, il y a un nuage de poussière, ils sont complètement traumatisés. Ou une petite fille qui raconte qu'elle ne va plus à l'école et elle ne veut pas mourir comme un petit copain à elle, à 4 ans, qui a reçu une balle d'un sniper. C'est vraiment ce genre d'horreur que vivent les enfants au Yémen à l'heure actuelle.
On sait que la situation s'est beaucoup détériorée depuis mars dernier. Et près de 400 enfants ont été tués et plus de 600 autres blessés depuis que les violences se sont accrues voici 4 mois. Est-ce que vos équipes sur place ont observé la même tendance présentement ou constatent-elles une légère accalmie sur place?
Non, écoutez, moi j'ai téléphoné ce matin à mes collègues. Je crois qu'il y a toujours des bombardements, il y a toujours des combats. Non, malheureusement, c'est une catastrophe humanitaire. On ne peut pas parler pour l'instant d'accalmie. Je pense qu'il y a 10 millions d'enfants qui ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Vous avez parlé des enfants tués, des enfants blessés. Il y a 900 établissements de soins qui ont fermé depuis fin mars. Tout ça ne s'arrange pas. Donc, nous appelons à la fin, une bonne fois pour toutes, de ces violences et nous demandons que toutes les restrictions, surtout les restrictions d'importation commerciale, soient levées parce que ce sont également elles, en plus de ces violences, qui font souffrir énormément la population et les enfants.
Et puis à l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire, célébrée ce 19 août, la chanteuse malienne Ina Modja a participé mardi soir au siège des Nations Unies à New York à un concert en hommage à l'aide humanitaire. Comme elle l'a confié au micro de Christina Silvero, elle a décidé d'interpréter la chanson Water qui revendique l'accès à l'eau potable pour tous, ainsi que Djarabi, une chanson traditionnelle.
Pour moi, c'est très important. Je suis née et j'ai grandi au Mali et en ce moment, le Mali traverse une période très difficile avec la guerre dans le nord et on a besoin d'une aide humanitaire. On a besoin, en étant africaine et en étant quelqu'un d'engagé, je suis consciente que dans le monde, on a besoin de gens qui se dévouent pour aider les autres.
Alors, quelle chanson allez-vous chanter et pourquoi le choix de ces chansons ?
Je vais chanter une de mes chansons qui s'appelle « Water ». Qui sera sur mon prochain album, qui est très importante pour moi parce que d'où je viens, tout le monde n'a pas accès à l'eau potable et pour moi c'est quelque chose de fondamental et de très important et j'avais envie de mettre ça en lumière. Et la deuxième chanson s'appelle Djarabi. C'est une chanson traditionnelle malienne qui a été chantée par beaucoup d'artistes différents de génération en génération et ce soir j'avais envie de la dédier au Mali.
Quel est votre message à l'occasion de cette journée ?
Pour moi, je suis, en tant que femme, ce qui se passe en ce moment dans le monde, en période de guerre, les personnes les plus vulnérables sont les femmes et les petites filles. Et j'avais envie d'attirer l'attention sur ça et de faire quelque chose pour essayer de les protéger le plus possible. Parce que malheureusement, c'est quelque chose qui me touche personnellement.
Justement, vous êtes fortement engagée en faveur des femmes et des jeunes filles. Est-ce
oui.
que vous voulez partager avec nous votre histoire et nous dire un message, en fait ?
Moi, j'ai une histoire qui est... quand j'avais 4 ans, j'ai été excisée à l'insu de mes parents quand ils étaient... Parce qu'ils sont contre l'excision et ils étaient absents. Et donc, un membre de ma famille m'a emmenée et m'a excisée. Et cette excision m'a mis dans une boîte pour moi. Ça m'a mis dans une place où on... Quelque part, comme si la société me disait que je ne pouvais pas exister individuellement, que je ne pouvais pas être qui je voulais être. Ça m'a beaucoup ralenti dans ma vie et à un moment, j'ai décidé de prendre les choses en main, de récupérer ce qui m'a été enlevé via une chirurgie réparatrice et de lutter contre l'excision, de militer contre l'excision, de prévenir des dangers de l'excision. Et aujourd'hui, j'ai dû me battre pour me défaire de toutes ces idées préconçues et tout le poids que ça avait eu sur moi. Et de pouvoir... faire ce dont j'ai toujours rêvé quand j'étais adolescente. Pour moi, c'est très important. Aujourd'hui, je chante ici et je tourne un petit peu partout. C'est un symbole très fort pour moi. Il y a toujours de l'espoir. On peut se sortir de ce poids des traditions.
Justement, qu'est-ce qui vous a donné le courage d'aller de l'avant ? Où est-ce que vous avez puisé vos forces pour prendre les choses en main et sortir de cette boîte que vous décrivez ?
C'était pas facile parce que... J'ai commencé à réaliser ça quand j'avais 18 ans, que c'était primordial pour moi de me défaire de ça, sinon ma vie serait celle qu'on avait décidée pour moi. Et j'ai décidé de me battre et j'ai puisé les ressources en moi et dans tous les rêves que j'avais depuis que je suis enfant. Et c'était important de pouvoir me dire que je pouvais y arriver, que c'était moi qui décidais, que j'étais maîtresse de ma vie et de mes décisions.
Vous avez un message donc à donner aux jeunes filles ?
Oui, qu'il y a de l'espoir. Peu importe la situation dans laquelle on est, en se battant et en croyant en notre potentiel, en nos rêves et ce qu'on est capable d'accomplir dans le monde, on peut y arriver. Tout le monde est né tout nu, on peut y arriver. Peu importe d'où on vient, peu importe la classe sociale, le pays, l'environnement familial, on peut y arriver.
Voilà, et c'est avec Ina Moudja, la chanteuse malienne, que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies, une édition à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.